Ce matin, je voudrais partager la parole sur le thème vivre au-dessus des tempêtes.
Alléluia.
De la vie. Vivre au-dessus des tempêtes de la vie. Est-ce quelqu'un avec moi? Vivre au-dessus des tempêtes de la vie. Vous savez, chaque jour, nous sommes confrontés à ce que nous appelons les tempêtes. Alléluia. C'est quoi, au sens propre, les tempêtes, une tempête? Une tempête, c'est éventuellement un vent violent qui cause la destruction. Alléluia. Qui cause la destruction dans un sens plus profond. Une tempête, ou bien les tempêtes de la vie, sont les choses ou les situations qui troublent la vie d'un homme. Alléluia. Qui troublent quoi? La vie d'un homme. Et cause en lui une destruction totale de sa foi ou même de sa force. Alléluia. De sa foi ou même de sa force. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu font face aux tempêtes de la vie. Lisons notre premier texte dans le livre de Matthieu, chapitre 14, le verset 22 au verset 32. Matthieu, chapitre 14, le verset 22 au verset 32. Je lis au nom de Jésus. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il le dit. Et comme il commençait à s'enfoncer, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montaient dans la barque et le vent cessa. Alléluia. Quelle histoire incroyable. Asseyons-nous bien aimés. Voyez, la Bible dit qu'un jour Jésus, après avoir terminé de rendre ministère à la foule qui était avec eux, il décide d'obliger ses disciples à monter dans la barque. Ça veut dire que quoi, bien-aimés? Ça veut dire que lorsqu'il leur proposa d'aller au départ, ils ont trouvé plein de raisons. Non, la mer n'est pas agréable, il y a beaucoup de difficultés, la météo n'est pas bonne, Seigneur, il faut encore attendre. La Bible dit que Jésus les obligea. Alléluia. Jésus les obligea à prendre la mer en cette soirée compliquée. Alléluia. Alors, la Bible dit que pendant qu'ils vont traverser donc la mer, les eaux, il va avoir cette tempête qui va se lever. Mais avant que nous y arrivions aux tempêtes, bien-aimés, à la tempête proprement dit, il est important de comprendre ici que Jésus, sachant qu'il y avait une tempête au devant, va prendre le temps de prier. Alléluia. Va prendre le temps de prier, de chercher la face de Dieu. La Bible dit, quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. À l'écart. Depuis la nuit que nous avons eue hier, avant-hier, il est question de la prière. Il est question de réaliser que c'est au lieu de la prière qu'il y a la délivrance. Aucune victoire sur la tempête ne se passe sans la prière. La prière. La barque ici représente notre destinée. La barque ici représente le véhicule que Dieu a choisi pour nous transporter d'un point A à un point B. Et aujourd'hui, chacun de nous est en train de traverser dans sa propre barque. Personne n'entre dans la barque de l'autre. Alléluia. Personne n'entre dans la barque de l'autre. Bien-aimé, sur le chemin de la destinée, les tempêtes prennent parfois les formes des épreuves. Les tempêtes prennent parfois la forme des tentations, des batailles qui nous ébranlent jusque dans nos fondements. Et donc les tempêtes ne sont pas, et vous devez savoir que les tempêtes ne sont pas excusables et ne peuvent être évitées. Personne ne vit une vie tranquille. Alléluia. À chaque étape de la vie d'un homme, il a des challenges. Et ces challenges s'en foutent de son statut de vie. Ces statuts s'en fout de son argent, s'en fout de l'onction qui est sur sa vie. La colère s'en foutait de l'onction sur la vie de Moïse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous allez voir des gens avec beaucoup de moyens ici dehors, mais avoir des handicaps compliqués. Vous allez voir des gens très pauvres ici dehors, mais n'avoir aucun handicap. Personne n'a ce qu'il veut. Personne n'a ce qu'il veut. Parce que Dieu a prévu qu'il y ait un incident. Dieu a prévu sur le chemin de ta destinée des tempêtes. Des tempêtes. Parfois, ça ne vient même pas de Dieu. Parfois, ça vient de plusieurs autres. Parce qu'il y a trois sources de tempêtes. Il y a les tempêtes qui viennent de Dieu. Il y a les tempêtes qui viennent de l'ennemi. Il y a les tempêtes qui viennent de nous-mêmes. Nous les verrons tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Et donc, le fait d'être un enfant de Dieu ne nous exempte pas des tempêtes de la vie. C'est pourquoi les disciples de Jésus ont été confrontés à des tempêtes en dépit de leur lien avec Jésus. La Bible dit « Jésus les obligea ». Ça veut dire qu'ils n'étaient pas disposés. « Ah Seigneur, comme tu es avec nous, vraiment il est écrit qu'on sera la tête et non la queue, on sera en haut et non en bas. Entre en haut et non en bas, là, il y a la tempête. Entre la queue et la tête, là, il y a le corps qui est la tempête. Alléluia. Alléluia. Et les tempêtes prennent diverses identités, je vous l'ai dit. Les épreuves, les accidents, les batailles, les deuils, les rejets, les manipulations, les destructions. Alléluia. Tout cela constitue des tempêtes. Des tempêtes. Alors comment faire pour éviter les tempêtes? Il n'y a rien à faire. Tu dois simplement les engager. Alléluia. Tu dois simplement les engager. Et la Bible dit que les disciples de Jésus étaient donc confrontés à des tempêtes en dépit de leur relation avec Jésus. En dépit de leur intimité avec Jésus. Et l'Écriture dit au verset 24, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. Je voudrais que vous souligniez cette phrase. Le vent était contraire. Bien-aimé, il y a des moments dans nos vies que les vents nous accompagnent. Les vents sont en notre faveur. Vous savez, pour un marin, pour quelqu'un qui a fait la pêche, il y a des moments où quand tu vas à la pêche, le vent t'accompagne. Vous allez même voir ça même en brousse, quand le chasseur va à la pêche, va à la chasse, lorsqu'il traque un animal, Il se place dans le sang du vent qui ne va pas être contraire à lui, de manière à ce que cela ne porte pas son odeur vers l'animal. Et fait en sorte que l'animal puisse s'enfuir. Alléluia. Alors la Bible dit que ce jour-là, le vent était contraire. Bien aimé, les choses ne vont pas toujours fonctionner comme tu veux. Les choses ne vont pas toujours être comme tu veux. Ça ne veut pas, bien aimé, le fait que Jésus soit avec toi ne fait pas que le vent soit en ta faveur. Toujours. La présence de Dieu dans ton projet. La présence de Dieu dans dans ce que tu inities ne rend pas toujours le vent en ta faveur. Non. Ce jour-là, le vent était contraire. Le vent était contraire. En fait, plus vous êtes proche de Dieu, plus les tempêtes risquent de s'élever contre vous et se branler et ébranler votre vie. Ne soyez jamais trop terrifié pour affronter la tempête. Car après la tempête, il y a la gloire. Alléluia. Il y a la gloire. Quelqu'un va me dire, ah, Paul, c'est facile de dire ça. C'est facile. C'est facile de dire, après la tempête, vient la gloire. Après les difficultés, vient l'élévation. Oui. Mais il n'y a pas d'autre manière de le dire. Le problème, c'est d'y croire. Alléluia. C'est de choisir d'y croire ou de ne pas y croire. Alors, vous devez aborder la tempête en sachant que vous servez un Dieu qui est le roi des tempêtes et que les tempêtes s'inclinent devant sa parole. Alléluia. Je prophétise qu'aucune tempête ne détruira les fondations et la grandeur de ton avenir au nom de Jésus. Et la grandeur de ton avenir au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus s'est retiré sur la montagne pour prier, sachant que ses disciples feraient face à une tempête, mais il les a laissés l'affronter seul. Il les a laissés l'affronter seul. Ceci révèle, mes bien-aimés, qu'il y a des moments où Dieu vous permettra de traverser certaines tempêtes seul, comme un processus de maturité, comme un processus de progrès. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous traverse des moments où on a l'impression que Dieu est absent dans notre histoire. Que Dieu est absent à côté de nous. Parfois d'autres vont dire, ah, je ne sens plus le Seigneur comme avant. Avant, je faisais juste comme ça, il opérait comme ceci. Mais aujourd'hui, c'est comme si la voix de Dieu, même la Bible dit que même Saül consultait Dieu, même pas les Urim et les Thurim, il n'a rien écouté. Même pas les songes et les visions, il n'a rien écouté. Parce que Dieu avait décidé d'être silencieux dans son histoire. Le silence de Dieu ne veut pas dire le refus de Dieu. Le silence de Dieu ne veut pas dire l'abandon de Dieu. Non. Il arrive des moments dans notre histoire que Dieu a besoin de voir comment nous allons nous débrouiller avec ce qu'il nous a déjà donné. Il arrive des moments que Dieu attend de voir ce que nous allons faire de ce qu'il nous a confié. Et de quelle manière nous allons entretenir ce qu'il nous a donné. Rappelez-vous cette fameuse parabole où le Seigneur dit qu'un homme, un roi devait partir en voyage. Il va appeler certains de ses serviteurs. Il va leur confier des talents. Il est allé en voyage. Il n'était pas là. Il arrive des moments où Dieu nous donne l'impression d'être en voyage. Mais il nous a confié des choses. Il nous a confié des capacités. Il nous a confié des dons. Il nous a confié des talents. Il attend de voir comment nous allons les fructifier. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu te donne? Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Bien-aimé, toutes les tempêtes ne sont pas destinées à vous détruire. Certaines tempêtes sont permises dans notre vie en tant qu'outil de processus divin pour activer la maturité dans notre vie. La maturité dans notre vie. Par exemple, lorsque nous regardons dans le livre de Job, nous voyons que Job a traversé des tempêtes désastreuses au point que sa propre femme l'a même conseillé de maudire Dieu et de mourir. Mais cette tempête avait été autorisé comme un processus pour sa maturité. Parce que les dernières années de Job vont être les meilleures de toute son existence. Job chapitre 42, le verset 12. La Bible dit, pendant les dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânes. Vous voyez? Si vous ne savez pas comment naviguer dans les tempêtes, vous risquez de manquer le processus qui peut déterminer votre maturité dans la vie. Alléluia. Qui peut déterminer votre maturité dans la vie. Votre tempête peut devenir l'outil de Dieu pour faire de vous une étoile. Observez la vie de Joseph. Les tempêtes par lesquelles il est passé l'ont conduit où? À la gestion de l'Égypte. À la gestion de l'Égypte. Bien-aimé, quelle est la tempête à laquelle tu fais face aujourd'hui? Quelle est la tempête à laquelle tu fais face depuis quelques jours? Quelle est la tempête à laquelle tu fais face depuis un mois? Quelle est la tempête alors que tu prenais la route pour venir à l'église ce matin? On t'a annoncé. Alléluia. Je voudrais te dire que c'est l'outil de Dieu pour te rendre plus mature, pour te rendre plus sage, pour te rendre plus expérimenté. Ne laissez pas votre tempête tuer votre mission dans la destinée. Ne laissez pas votre échec d'hier vous distraire du succès et du progrès d'aujourd'hui. Jésus lui-même a traversé diverses tempêtes jusqu'à sa mort sur la croix. Mais attention, mais son attention était au-delà des tempêtes. Son attention était au-delà des tempêtes. Je prie pour toi ce matin. Que Dieu utilise tes tempêtes comme un processus divin pour ton élévation au nom de Jésus. Pour le processus de ta croissance au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des endroits et des niveaux auxquels vous ne pourrez jamais accéder dans la vie si vous ne vous séparez pas de la foule ou la multitude. Alléluia. Je répète, il y a des endroits ou des niveaux spirituels et même des niveaux professionnels, des niveaux financiers, des niveaux matériels auxquels vous ne pourrez jamais accéder dans la vie si vous ne vous séparez pas de la foule. De la foule. Alléluia. La Bible dit dans le verset 22, dans le verset 23, 22-23, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Bien-aimé, il arrive dans les moments de ta vie où tu dois faire face à certaines batailles, tu dois faire face à certaines tempêtes, tu dois te séparer de certaines personnes. Lorsque nous rentrons dans le livre de Genèse chapitre 22, nous observons comment Abraham lui-même, lorsqu'il va aller offrir Isaac comme sacrifice, il était accompagné des serviteurs. La Bible dit que lorsqu'il va arriver au pied de la montagne, il va dire aux serviteurs, restez ici. Restez ici. Bien-aimé, si la foule t'accompagne au devant de tes tempêtes, tu vas perdre l'objectif. Tu vas perdre l'objectif. Vous voyez, parfois, au devant de nos tempêtes, Dieu éloigne certaines personnes au devant de nous. Et nous sommes les premiers à se plaindre. Oh, tellement abandonné. C'est dans les difficultés qu'on connaît ses vrais amis. Laisse ça. C'est dans les difficultés qu'on connaît ses vrais frères. Vraiment, tout le monde m'a abandonné. Il arrive des moments au devant des tempêtes, Dieu lui-même te sépare. Dieu lui-même éloigne des gens pour que personne ne porte la gloire de ta délivrance. Alléluia. Ce n'est pas que ces gens sont méchants envers toi. Ce n'est pas qu'ils sont mal intentionnés envers toi. C'est simplement que Dieu ne veut pas qu'ils aient quelque chose à prendre dans cette délivrance dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc arrête de dire, ah, vraiment, comme ce gars à la piscine de Bethesda, il n'y avait personne pour m'aider, il n'y avait personne pour me soutenir, il n'y avait personne, même les gens que j'ai aidés dans la vie, ils m'ont abandonné. Laisse, Dieu va quelque part avec toi. Vous voyez, une des raisons pour lesquelles le gars a fait 38 ans à la piscine, c'est parce qu'il avait la rancune. Quelqu'un n'a pas dit amen. C'est parce qu'il avait la rancune. C'est pourquoi quand Jésus vient lui pose une question, veux-tu être guéri? Il dit, il n'y a personne. Regardez, il n'y a personne. On dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Ce matin, je viens vers toi. Je dis, veux-tu être guéri? Tu dis que, ah, papa, tellement les gens, j'ai aidé beaucoup les gens dans ma vie. On m'a abandonné. J'ai payé l'école ici. J'ai donné l'argent ici. J'ai fait ça. Tu as échoué. C'est ta tempête. Dieu a choisi de les séparer de toi. Dieu a choisi de les séparer de toi. Est-ce que tu peux comprendre ça ce matin? Que ce n'est pas une histoire d'émotion, ce n'est pas une histoire de sentiments, ce n'est pas une histoire de personne à personne, c'est une histoire entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu. Alors il choisit de dire, toi, out, je veux pas, votre scène s'arrête dans le film de mon fils, votre scène finit ici, dans le scénario de sa destinée. Allez, ta scène est terminée. Alléluia. Un jour, je crois que tout le monde a aimé beaucoup cette série Friends. Alléluia. Vous avez aimé, qui connaît Friends? Alléluia, une série formidable. Quel que soit le nombre d'années que ça passe, tu regardes, tu es toujours mort de rire. Alléluia. Alors, j'ai compris la place que certains gens mettent dans la vie des autres un jour par cette série-là. Il y a un garçon qu'on appelle Joey. Vous connaissez Joey, l'Italien d'origine. Amen. Et Joey, vous vous souvenez que il joue toujours une scène de quelqu'un qui a toujours des petits rôles dans les films, ça ne marche pas parce qu'il cherche toujours les femmes. Alléluia. Il est toujours intéressé par les femmes. Alors Joey, il a eu un bon rôle dans un film. Et il dit que chaque jour quand il partait pour jouer la scène, il était très inspiré d'ajouter plus que ce qui avait été écrit dans le scénario. Et quand il rentrait, il en parle à ses amis. Ses amis, une, Rachel lui dit, mais tu ne cours pas le risque que ça énerve le réalisateur et qu'il décide de t'enlever. Il dit que non, au contraire, chaque fois à la fin, il me félicite. Il dit, Joey, vraiment, tu es un gars intelligent. Mais il ne savait pas que le réalisateur était en train d'écrire la dernière scène de Joey. Donc, dans le prochain scénario, il a mis qu'il mourait dans l'ascenseur. Et donc, Joey, quand il a pris sa dernière scène, il a compris qu'il mourait dans l'ascenseur. Alors, il a essayé de filer ça à un collègue. Le gars dit, non, moi, il ne meurt pas dans l'ascenseur, c'est toi. Et tout ça, le réalisateur avait choisi la fin de son film là-bas, parce qu'il l'énervait déjà. Il ne faisait que rajouter dans les scènes. Vous voyez? Et ici, dans notre histoire, Jésus est le réalisateur. Alors, il choisit qui entre dans notre film ou qui sort de notre film. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Et parfois, sans notre avis, sachant qu'il y a des événements devant, il dit, cette personne qui descend maintenant, son bus s'arrête maintenant. Toi, tu t'énerves. Tu deviens rancunier. Tu deviens haineux. Il m'a abandonné. Un jour, quand Dieu va me bénir, ils vont comprendre. Un jour, quand Dieu va me bénir, je vais leur montrer que toute l'humiliation qu'ils m'ont apportée là, Dieu m'a restauré. Tu n'as pas compris. Genèse chapitre 50, quand les frères de Joseph se sont plaints, Joseph leur a dit que ne vous plaignez pas. Votre mauvaise action, Dieu l'a changée en une bonne action. Amen. Alléluia. Joseph avait compris que le Seigneur s'arrêtait à ce moment-là où on le vendait en Égypte et qu'il avait besoin de cette scène-là pour atteindre les objectifs de sa destinée. Je déclare dans ta vie, je déclare dans ta vie que le Seigneur ôte toutes les personnes qui ne sont plus dans le film de ta destinée au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Assois-toi bien-aimé. Vous allez voir, chaque fois qu'une personne doit finir dans ton film, sa colère contre toi devient plus grande. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Il sait que bientôt c'est terminé pour lui. Il dit non, emmagasinons maintenant, fini. Quand la scène de Pharaon devait finir, regardez la haine que ce Pharaon avait. Regardez la haine, l'endurcissement de son cœur. Bien-aimé, ce n'était plus une question entre Moïse et lui. C'était plus que ça. C'était plus que ça. Il s'attaquait au plan de Dieu pour ta vie. Et c'est à ce moment que Dieu scelle sa destruction totale. Alléluia. Alléluia. Je prie pour toi. Que le Seigneur te donne le discernement dans tes relations. Que le Seigneur te donne le discernement dans tes relations. Au nom de Jésus. Matthieu 14, 23, il dit, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne et pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Bien-aimé, tu dois apprendre à valoriser tes moments de solitude. Être seul ne veut pas dire que tu as été abandonné. Ça veut dire que Dieu veut être plus proche de toi. Être seul, ça ne veut pas dire qu'on t'a rejeté. Ça veut dire que tu dois refaire un travail sur toi-même. Pour être prêt pour la prochaine scène. Pour être prêt pour la prochaine bataille. Pour être prêt pour la tempête. La Bible dit dans le livre de Genèse que Jacob demeura seul. Et un gars est sorti de nulle part. Il a engagé la bagarre. Chaque fois que tu es seul, chaque fois que tu te sens seul, ça prépare une tempête. Ça prépare une tempête. Hier, on a regardé le match. Vous avez vu un moment comment Aboubakar Vincent est allé s'entraîner seul. Alléluia. Il ne savait pas que la tempête venait. Il entend BAM! Et gars a allumé le feu. Je crois que ça a étourdi son cerveau. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, il arrive des moments où tu seras seul dans la marche de ta destinée. Ce n'est pas parce que tu as un problème avec les gens. Ce n'est pas parce que les gens ont des problèmes avec toi. C'est que Dieu a choisi de te préparer pour la tempête qui est devant toi. Es-tu conscient de cela? Es-tu conscient de cela? Ou est-ce que tu te lèves et tu dis non, je vais aller me chercher des nouveaux copains, je vais aller me chercher des nouvelles copines. Non, il me faut absolument, je ne peux pas rester seul, je ne peux pas rester seul. Je dois être avec les autres. Et quand la tempête vient, tu n'as pas été préparé. Quand la tempête arrive, tu n'étais pas bien préparé. Alléluia. Et c'est pourquoi tu dois apprendre à valoriser tes moments de solitude. Sinon, la foule risque d'engloutir la couronne qui te permettra d'accéder au niveau suivant de ta destinée. La foule. Écoutez, bien-aimé. Dieu te séparera pour te consacrer afin de t'aider à te concentrer sur les niveaux supérieurs de ta vie. Te concentrer. Beaucoup de gens sont détruits parce qu'ils aiment s'attacher à la foule au détriment de la couronne de leur destinée. Le voyage de la vie n'est pas un voyage de la foule. Le voyage de la vie n'est pas un voyage avec la foule. C'est un voyage solitaire. C'est un voyage personnel. Vous devez savoir quand vous renvoyez la foule ou vous en éloignez. Il arrive des moments où tu ne t'en éloignes pas. Tu les renvoies, tu les chasses. Renvoyer, ça veut dire chasser. Jésus a chassé. C'est-à-dire qu'il arrive des moments dans ta... Je ne veux pas blesser quelqu'un dans ma... Je ne veux pas moi blesser. Dieu, toi-même, chasse-les. Dieu dit, toi-même, chasse-les. Ta politesse et ta fausse compassion vont faire que les gens vont grappiller dans ta destinée. Il arrive des moments où la foule n'est pas prête à te laisser. Comment la foule pouvait abandonner Jésus? Ce n'était pas possible. Puisque Jésus leur donnait à manger, Jésus leur donnait à boire. Jésus les guérissait. Vous quittez ce genre de personnes? Non! Mais Jésus oblige les disciples. Il dit, entrez vite dans la barque. Avancez. Après, il appelle la foule, dit, partez! Nous aussi, on a besoin de calme et de solitude. Un moment, tu es seul chez toi. Et quand tu es seul, tu veux que les gens te visitent, les gens te visitent. Mais tu ne comprends pas pourquoi tu es seul chez toi. Et un moment, les gens remplissent la maison. Toutes sortes de combats arrivent dans la maison, tu ne comprends rien. Parce que tu n'as pas pris le temps, quand tu étais seul, de comprendre ton environnement. Frère, sœur, tu dois comprendre. Comprendre son environnement spirituel, c'est quand tu es seul. Comprendre son environnement spirituel, c'est quand tu es seul. Comprendre son environnement spirituel, c'est quand. Comprendre les réflexes de sa vie, c'est quand tu es seul. Se comprendre soi-même et faire le point sur soi-même, c'est quand tu es seul. S'il y a les gens à côté de toi, tu ne comprendras rien. Ils vont te donner l'impression que tu t'es compris. Ils vont te donner l'impression qu'ils t'ont compris. Ils vont te donner l'impression qu'ils sont avec toi. Alors que quand les tempêtes vont arriver, les gars vont chercher leur route. Que le Seigneur te donne le discernement. C'est pourquoi j'ai dit, bien-aimé, encore une fois de plus, il y a des moments où nous devons chasser la foule. Il y a des moments où nous devons nous éloigner de la foule. Et ici, Jésus n'a pas choisi de s'éloigner de la foule, mais il a choisi de les chasser. De les chasser. Tout simplement. Tout simplement. La plupart du temps, la foule reste autour de vous pour ce qu'elle peut obtenir de vous. Et non parce qu'elle vous aime. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont à côté de... tonton, tata, ma mère, mon père, celui que j'aime, on te fait toutes sortes de poèmes. Et tu te laisses aveugler. Tu dis, non, ça c'est ma personne. Ah, la manière qu'il m'aime là, attends la tempête arrive. Alléluia. Attends la tempête arrive, on va te rappeler que ce n'est pas notre tempête, c'est ta tempête. Amen. C'est ta tempête à toi. Voyez? Donc, la foule dont reste autour de nous pour ce qu'elle peut obtenir de nous et non parce qu'elle nous aime. Par exemple, Jésus a nourri une foule de 5000 personnes, mais lorsqu'il a été crucifié, aucune des 5000 personnes ne s'est présentée pour défendre Jésus. Où étaient ces gens-là pour dire non, il nous a nourris? Où étaient ces gens-là pour dire que non, l'homme, s'il nous a donné à manger, nous a donné du poisson, hop, vous ne pouvez pas le tuer. Même les disciples de Jésus, personne n'était à la croix. Tout le monde avait disparu. Alléluia. Alors si certaines personnes ne se retirent pas de votre vie, vous serez à nouveau mis dans les classeurs de la destinée. Certaines personnes constitue un point mort dans votre vie. Et si vous n'y prenez pas garde, vous risquez de ne pas progresser dans la vie. Par exemple, imaginez un homme qui piège une femme dans une relation depuis 15 ans, mais qui refuse de l'épouser. Alléluia. L'autre jour, je me suis arrêté, je voulais un article, et il y a un monsieur là, un jeune homme qui vendait, et je l'ai interpellé. Et j'étais avec maman, on était à la pharmacie. Et pendant que je l'attendais au dehors, elle était à l'intérieur. Et pendant que j'achetais l'article, maman arrivait, elle m'a dit, « Ah, l'argent que tu m'as donné, ils n'ont pas de monnaie. Est-ce que tu n'as pas de petite monnaie dans ton porte-monnaie? » J'ai dit non. Mais la pharmacie, ça prend les Orange et les MTN monnaie. Elle dit, « Ah, ok. » J'ai dit, « Prends mon téléphone mon autre téléphone, tu vas avec. Elle m'a dit, le code, c'est ce que je connais. Elle dit que oui, elle est partie. Et le gars me dit, grand frère, excuse-moi. Excuse-moi. J'ai dit, ok. Il dit, est-ce que je peux vous poser une question? Il dit que oui. Il dit, vous faites comment pour que votre femme connaisse votre code? Vous faites comment? J'ai dit, ah, c'est ma femme, non? Il dit, non, 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 non. Il dit, même ma femme qui est à la maison, elle ne connaît pas mon code. Hey, les femmes d'aujourd'hui, non! Alléluia! Alléluia! J'ai dit que, mais tu connais pour ta femme, non? Il dit que oui, je connais pour ma femme, parce que c'est moi qui ai créé son compte. Donc, je connais son compte ici par cœur. Et pour toi? Il dit, vous avez des enfants? Il dit que oui. Il dit, tu vas l'épouser quand? Il dit, quand la vie va être meilleure un peu. Il dit, donc tu l'étudies encore? Il dit que oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alléluia. Et je suis resté comme ça. Après, il a commencé à me dire, la dot est trop chère chez eux. Il dit, chez eux, c'est où? Il dit, les Bafang, non? Elle est Bafang. Et toi, tu es d'où? Il dit, je suis Bouddha. Il dit, ok. Il dit, en tout cas, ça dépend de comment vous avez posé les bases de votre relation. Amen. Ça dépend de comment vous avez posé les bases de votre relation. Si tu as été influencé par les anciennes relations, tu ne pourras pas faire confiance à cette autre relation. Jamais! Jamais! Vous voyez? Et donc, cet homme, alors, imaginez qu'un homme comme ça vous piège dans une relation pendant 15 ans, mais refuse de vous épouser. Cet homme devient un poids mort dans votre vie. Alléluia. Il devient un poids mort. Chaque jour, vous rappelle que sans lui, votre vie ne peut jamais décoller. Tellement tu es resté avec lui que tu crois dans ta tête qu'il est Dieu. Et dans ta vie, il a remplacé ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Et chaque jour, tu dis non, un jour, il va m'épouser. Un jour. Frère, il y a des relations aujourd'hui dans la vie de certaines personnes qui sont des relations toxiques. Et tant que tu ne t'en sépares pas, tu ne peux pas avoir droit à quelque chose de meilleur. Tant que tu ne les mets pas de côté, tu ne pourras pas voir que demain quelque chose de grand est devant toi. Tu ne pourras pas. De même dans les vies relationnelles et même pas simplement dans le mariage. C'est pourquoi il dit qu'il y a des gens qui s'approchent de nous en fonction de ce que nous avons. Toi, tu ne sais pas ce que tu as, mais lui, il sait ce que tu as. Il va trouver un homme comme toi, comme quand elle va trouver un genre d'homme comme ça, comme toi là. Chaque jour a au moins 10 000 dans sa poche. Et chaque jour, il te donne au moins 5 000 pour tes poches. C'est mieux que d'attendre à la fin du mois, non? Avant d'avoir quelque chose. Et quelqu'un te traîne comme ça sur 18 ans. Mais il ne t'épouse pas. Il te donne 5 enfants. En 5 ans. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas encore partir où? Tu vas encore partir où? Ton sac est gros. Ton sac est trop gros. Alléluia. Il y a tous les deuils, toutes les cérémonies dans votre famille est là. Hein. On le connaît comme le beau sans être beau. Hein. Il nuit ta vie. J'ai dit il nuit ta vie. Il nuit ta vie. Il passe 6 mois, il revient. Vous êtes là. Vous devenez là comme grand frère et petite soeur. Il devient comme un membre de la famille. Quand il y a une réunion familiale, il est là. Au point, tout le monde oublie même qu'il est un étranger. Un poids mort. Un poids mort. Jusqu'à ce que vous le renvoyez, c'est alors que vous pouvez vivre quelque chose de bien dans votre vie. Je prophétise dans ta vie. Que toute personne qui s'accroche à ta vie pour t'empêcher d'atteindre ton prochain niveau est déconnectée de ta vie au nom de Jésus. Est déconnectée de ta vie au nom de Jésus. Est déconnectée de ta vie au nom de Jésus. Alors, trois types de tempêtes que vous devez connaître, identifier et les traiter. Premier type de tempête, bien-aimés, nous avons les tempêtes divines. Alléluia. Les tempêtes divines, ce sont les tempêtes divinement orchestrées, organisées ou permises comme entraînement dans le processus, je l'ai dit tout à l'heure, de votre croissance pour vous construire pour les valeurs de l'avenir. Par exemple, Job a fait face à des tempêtes divinement autorisées qui ont transformé sa vie en mieux. Job chapitre 1, le verset 8. Job chapitre 42, le verset 12. Alors, quand on va dans Job chapitre 1, le verset 8, à partir du verset 8, nous voyons une succession de tempêtes qui s'abat sur Job. Il perd ses brebis, il perd ses moutons, il perd ses maisons, il perd ses biens, il perd ses enfants. En une seule journée! C'est fort. La Bible dit, ses fils, quelqu'un vient dire que tes enfants étaient réunis quelque part, ils célébraient, ils se réjouissaient. Une tempête est venue, ça détruit la maison et ça les a écrasés. C'est pas vrai. Mais ça, c'est la sorcellerie. Si c'est nous, on devait aller regarder au village. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Une succession de difficultés. Mais c'était ce que Dieu avait permis, pas qu'il en était auteur. N'oubliez pas que c'est Satan qui avait causé toutes ces catastrophes. Mais Dieu l'avait permis parce qu'il voulait amener Job quelque part. Il voulait amener Job à comprendre que sa pensée est souveraine, quel que soit ce par quoi nous passons. Alléluia. Regardez Joseph qui fera face à ces tempêtes qui l'ont conduit de la prison à devenir premier ministre en Égypte. Regardez Moïse qui a fait face à des tempêtes qui l'ont fait s'échapper d'Égypte en tant que fugitif pour revenir et devenir le grand libérateur utilisé par le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous constatons que quand Dieu organise une tempête, il préserve ta vie. Vous voyez? Il préserve ta vie. Deuxième type de tempête, les tempêtes démoniaques. Les tempêtes démoniaques, bien-aimés, ce sont des tempêtes qui entrent dans votre vie par l'influence et les opérations démoniaques. Alléluia. Vous devez comprendre, combattre ce type de tempête par la force de la prière. Lorsque Paul fut pris dans le naufrage terrible qui le mena à Malte, dans Actes chapitre 27, Actes chapitre 28, alléluia. La Bible parle de cette tempête qui tentait de le détruire, mais il savait qu'il devait passer outre cette tempête. Pourquoi? Hormis le fait qu'il devait arriver à Rome, il devait aussi passer par cette île de Malte, car de l'autre côté de la tempête, il y avait quelqu'un qui avait besoin de lui. Le père du consul de l'île et tous les malades de l'île, bien-aimés. Chacun fut guéri par la main puissante de Dieu à travers le ministère de l'apôtre Paul. Mais les tempêtes se sont levées contre Paul. Et Actes chapitre 27, la Bible dit clairement que Paul va dire aux soldats qui le gardaient que ne craignez rien, l'ange que je sais m'a informé que personne ne mourra. On va perdre les biens, mais personne ne va mourir. Alléluia. Parce que cette tempête était venue pour sa destruction. Troisième type de tempête. Les tempêtes auto-infligées. Les tempêtes auto-infligées. Bien aimé, il s'agit ici des tempêtes que l'on crée soi-même par manque de connaissances, par manque de sagesse, par manque de capacité, par désobéissance même. Alléluia. Par désobéissance. Beaucoup de gens aujourd'hui créent des tempêtes pour eux-mêmes sur la base de leur style de vie. Le style de vie qui est parfois contraire à la pensée de Dieu. Jonas chapitre 1, regardez à partir du verset 2 jusqu'au verset 12. Nous voyons Jonas à qui le Seigneur demande de partir, annoncer l'évangile, annoncer le salut de Ninive. Il choisit d'aller à Tarsis. Alléluia. Et à cause de ce changement de trajectoire, la tempête va frapper là-bas. Mais personne ne va mourir. Ils vont tirer au sort. Ils ne vont pas comprendre d'où venait la tempête jusqu'à ce qu'ils vont trouver Jonas au fond de la barque, assis, couché, tranquille. Ils vont lui demander, mais quel est le problème? Et il va lui dire que c'est moi qui suis la cause de cette histoire. Portez-moi, jetez-moi dans l'eau et l'eau va se calmer. Et c'est comme ça que l'eau s'est calmée. Pourquoi? Parce que Jonas en était la cause à cause de sa désobéissance. À cause de sa désobéissance. Beaucoup de gens aujourd'hui attirent des tempêtes sur leur vie eux-mêmes. Pas leur vie de désobéissance. Pas leur manque de connaissance de la vie. L'ignorance. L'ignorance. Alléluia. L'ignorance. D'autres, trop, un cœur plein d'orgueil. Ils se retrouvent dans des tempêtes. Alléluia. D'autres, en poursuivant la vanité de la vie, ils se retrouvent dans beaucoup de situations. Ils se retrouvent. Imaginez une personne, on lui dit arrête, la vie là n'est pas bien. Elle continue à mener cette vie, elle continue à mener cette vie du dehors et elle finit par attraper le VIH. Alléluia. Elle revient et demande pardon à Dieu. Dieu pardonne, n'est-ce pas? Mais les conséquences de son péché demeurent. Elle est malade et elle doit boire les antiviraux pour s'en sortir. Que le Seigneur nous préserve. Que le Seigneur nous préserve. Bien-aimés, quelques clés pour résister aux tempêtes. La première clé pour résister aux tempêtes, bien-aimés, c'est la prière. La prière. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de personnes perdent dans leurs tempêtes. Parce qu'au lieu de prier, il murmure. Parce qu'au lieu de prier, il se lamente. Parce qu'au lieu de prier, il se plaigne. Regardez le garçon à la piscine de Bethesda, Jean chapitre 5. Ils ont la rancune dans le cœur. La prière préserve ton cœur de toute autre chose. Alléluia. Amen. Alors, le moyen le plus rapide de devenir une proie, c'est de ne pas prier. Le moyen le plus facile de devenir une cible du monde des ténèbres, c'est le refus de se mettre à la prière. Si Jésus s'est séparé pour prier, qui vous a dit que la prière n'était pas nécessaire? Qui vous dit que la prière n'est pas nécessaire dans votre vie? Jésus s'est retiré pour prier. Au verset 23 du même Matthieu 14, n'attendez pas les tempêtes pour prier. Vivez une vie de prière. Alléluia. N'attendez pas les tempêtes. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens, quand ils débarquent à l'église, on sait qu'il y a eu des problèmes. Alléluia. Ils disparaissent, vous ne les voyez pas. Le jour qu'ils arrivent à l'église, toi-même, tu n'as pas besoin de prophétiser. Tu ouvres seulement la bouche, je vois les problèmes. Je vois les problèmes. Yeah, papa, tu as raison. Papa, tu vois. Il n'a rien vu. C'est l'expérience. C'est que toi, tu es la catégorie de chrétiens qui ne débarque quand tu as une tempête. Quand tout va bien, tu n'as pas le temps. Seigneur, je prends un petit congé. Alors que tu oublies que c'est le temps de prier. C'est le temps de prier pour se préparer. Quand tu sors d'une tempête, prépare-toi pour la prochaine. Il y a une prochaine devant. Il y a une prochaine devant. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une prochaine devant. Vous devez développer une attitude de prière constante pour survivre aux périodes des tempêtes de la vie. Luc chapitre 18, le verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. La prière possède un pouvoir inhérent qui vous permet de résister aux tempêtes et de les surmonter. La prière n'est pas un monologue, mais un dialogue qui se présente comme une requête et une supplication devant Dieu. Lorsque les gens, les hommes sont actifs dans la prière, Dieu est actif pour les répondre. Alléluia. Dieu est actif pour les répondre. Alors, prier également n'est pas faire du bruit. Alléluia. Faire du bruit, c'est quoi? Répéter la même chose 100 millions de fois. Amen. C'est aussi ça, faire des prières vaines. Faire des prières vaines. Faire des prières vaines. Un jour, j'avais écouté un homme de Dieu qui disait, il a prié un point de prière devant Dieu pendant 10 ans. J'ai dit, c'est pas vrai. Comment il a fait ça? Alléluia. C'est après 10 ans de persévérance que Dieu l'a visité. J'ai vu un autre qui a dit qu'il a fait le même point de prière pendant 15 ans. C'est après 15 ans que le Seigneur l'a visité. Bien-aimé, tu pries 2 jours, tu t'arrêtes. Ah, je suis là fatigué. Dieu n'a qu'à répondre. Si Dieu ne répond pas, ah, tu commences à faire le chantage à Dieu. Non. Tu dois persévérer. Alléluia. Tu dois persévérer. La prière n'est pas un exercice religieux. C'est un exercice spirituel destiné à vous élever dans les fréquences de l'esprit afin que vous puissiez avoir la force de vaincre les tempêtes et de passer au niveau suivant de votre vie. Juste après avoir prié, rappelez-vous dans le texte que nous avons lu, Matthieu 14, juste après avoir prié, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est revenu en marchant sur les eaux. Alléluia. C'est ça, n'est-ce pas? Jésus est allé vers ses disciples en marchant sur les eaux dans la tempête qui terrifiait ses disciples. Qui terrifiait ses disciples au point où l'un a dit non, c'est un fantôme. Bien-aimé, vous voyez une tempête, quelqu'un débarque dedans au milieu. Toi-même, tu vas soupçonner que c'est un sorcier. Alléluia. Et on dit que ça, c'est un fantôme. Et c'est Jésus qui va dire, non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi-même. Alléluia. Et donc cela révèle que la prière vous permet de marcher sur des terrains impossibles dans les tempêtes. De sorte que ce qui terrifie les autres ne peut vous terrifier. Alléluia. Ne peut vous terrifier. Je prophétise qu'un nouveau feu pour la prière soit allumé dans ton esprit au nom de Jésus. Pour t'aider à surmonter les tempêtes au nom de Jésus. Deuxième clé pour résister aux tempêtes, la vision. La vision. Bien-aimé, votre vision affecte votre position dans les tempêtes de la vie. Votre vision affecte votre position dans les tempêtes de la vie. Proverbe chapitre 29, le verset 18, il dit « Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. » C'est-à-dire, le peuple n'a pas de position. Le peuple n'a pas d'orientation. Alléluia. Alors, si vous pouvez visualiser, vous pouvez actualiser et réaliser la grandeur au-delà des tempêtes de la vie. C'est la façon dont vous envisagez la tempête qui vous donne une position pour déterminer ce que vous ferez de la tempête. Amen. Alors, ma question ce matin, c'est comment tu vois les tempêtes de ta vie? Est-ce que tu les vois comme surmontables? Est-ce que tu les vois comme un élément qui va t'ensevelir pour toujours? Est-ce que tu les vois comme la fin de ton histoire? Ou est-ce que tu vois qu'au-delà de la tempête, il y a de l'espoir? Alléluia! Il y a de l'espoir! Il y a de l'espoir! C'est pourquoi chacun de nous, nous devons changer notre perspective par rapport à ce par quoi nous traversons. Par rapport à ce que nous traversons. Par rapport à ce par quoi nous passons. Alléluia. Alléluia. Je suis toujours étonné et choqué. Chaque fois que nous passons des temps de prière, les semaines qui viennent après ce temps de prière, les gens sont comme des morts vivants. Alléluia. Si vous venez ici, là où je me mets, et que vous regardez là où vous êtes, vous allez voir que votre vision va changer. Et vous allez dire, mais comment les gens ils peuvent être bizarres comme ça? Amen. Amen. Comme des personnes qui n'ont jamais été visitées par Dieu. Comme des personnes qui n'ont rien reçu de la part du Seigneur. Comme des personnes qui sont abandonnées, boudant le Seigneur. Vous voyez un peu comme Ethan, mon bonbon. Quand il boude, il est dans son petit coin comme ça, il boude sa maman. Il boude sa maman comme ça. C'est comme ça que vous êtes. Alors que vous venez de manger un bon plat de méchoui, alléluia, dans la présence de Dieu. Après la vision. Et la vision naît de votre état d'esprit. Quel est mon état d'esprit? Mon état d'esprit détermine ce que je vois. Si mon état d'esprit est triste, je veux voir que des choses moroses. Je veux voir que des choses sans vie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ce message est à propos. Parce que chacun ici est comme s'il est dans les tempêtes. Alors que plusieurs sont sortis derrière des tempêtes, mais eux-mêmes ont pris leur propre pied, ils ont dit que je dois rester dans la tempête. Fais quoi? Alléluia. 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 Alors, c'est la raison pour laquelle beaucoup vont être épuisés dans leur âme. Beaucoup sont épuisés dans leur âme. Et leur corps va s'affaiblir aussi. Alléluia. Alors, une question. Soyons vrais. Hein? Amen. Qui est épuisé dans son âme? Viens. Qui est épuisé dans son âme? Ah, vous attendez un cobaye avant de lever la main. Mets-toi là. Pourquoi tu es épuisé dans ton âme?
Je suis épuisé dans mon âme parce que je me dis que je suis pas en train de faire ce que je suis appelé à faire.
Tu devais faire quoi?
En fait, je me dis le niveau du service. Je me dis que je suis fatigué parce que c'est comme si je suis pas à la hauteur, quoi. Je sais pas. Au niveau que je veux, voilà.
Ok. Qui peut répondre? Qui peut l'aider? Patrick, tu peux l'aider? Tu as écouté ce qu'il a dit? Tu n'as pas écouté? Vous voyez, c'est toujours les tempêtes. Quand on est les tempêtes, on n'écoute rien. Hein? On croit écouter, mais on n'écoute pas. Alléluia! Ok, pourquoi tu es épuisé?
Moi, je me dis que c'est ma consécration n'est plus au niveau qu'elle était avant.
Il dit qu'il est épuisé parce qu'il croit que son niveau n'est pas celui qu'il devrait avoir. C'est ça. Il s'est dit qu'il n'est pas au niveau où il devait être. Ok. Quel est le niveau que tu devais être? Quelqu'un a posé.
C'est-à-dire le service que Seigneur m'a appelé à faire. Je me dis que je ne suis pas au ce niveau.
C'est quoi? C'est quoi pratiquement?
Pratiquement, c'est d'abord évangéliser et prendre soin de ceux qui sont dans les besoins selon comme le Seigneur m'a appelé. Voilà.
Et comment il faut faire pour résoudre ce problème? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Prends le micro. Aidons notre frère.
Moi, je voudrais savoir une chose. À quelle échelle tu veux être aujourd'hui? À quelle échelle tu es et à quelle
sur
échelle
10,
tu veux être aujourd'hui?
Sur 10.
Parce que je pense qu'il faut que toi-même donne-toi, tu fasses une rétrospection de ta
voilà,
vie.
Voilà. Sur 10, tu crois que en temps normal, tu devrais être à quelle note et tu es à quelle note?
Oui, constamment, je fais ce qu'on appelle un auto-examen. Donc, quand j'observe, je me dis qu'actuellement, je suis 10, je suis sur 7. Je meurs à thème 10, c'est ça pour eux.
Je voulais être 10 sur 10.
Bon, disons 9,5 pour ne pas être à la perfection. Voilà.
9,5. Et maintenant, tu es à quel niveau?
Je dis bien que si tu peux m'évaluer, moi, personnellement, je suis à 7.
7. 7 sur 10. Donc, en ce moment, il est à 7 sur 10. Il aurait aimé être à 9 sur 10. Vous n'avez pas dit 10 sur 10. Ok?
Je voulais juste dire à mon frère, les 7 sur 10, il faut déjà les célébrer. Parce que si tu ne les célèbres pas, tu ne vas pas avancer. Si tu t'arrêtes en te disant que ce n'est pas suffisant, je pense qu'il faut d'abord célébrer, c'est déjà un bon pas. Et se dire, si je suis arrivé là, je peux aller plus loin.
Amen. Alléluia. Amen. C'est important. Parce que Il y a trois niveaux dans le spirituel. Trois. Trois. Amen. Très peu ou très difficilement, les gens arrivent au troisième niveau. Tout le monde reste aux deux premiers niveaux. Deux premiers niveaux. Le niveau profond, peu profond. Amen. Alors, peu profond et profond. Peu profond et profond. Alléluia. Deep, ça veut dire plus profond. Amen. Plus profond, deep, ça veut dire profond. Profond et plus profond. Maintenant, il y a deepest qui est le dernier niveau. Amen. Alors, vous devez savoir que je vous explique quelque chose. Il y a beaucoup, lorsqu'ils vont aller au ciel, beaucoup d'entre nous, ceux qui sont profonds, ils vont être comme le protocole de ceux qui sont plus profonds. Alléluia. Mais on sera tous dans la présence de Dieu. On sera tous dans la présence de Dieu. Alors, si tu ne célèbres pas ce que tu as déjà, comment vas-tu discerner que tu as un peu plus? Alors, tu ne t'aides pas en te repliant sur toi-même et en laissant ton âme s'attrister. Amen. Amen. Alors, je prends un exemple. Un parent, voilà, tu es derrière un parent. Je prends un parent. Un parent. Papa Martin, viens. Ok. Écoute ça, hein. Viens. Papa Martin, quand tu te lèves le matin, est-ce que tu as des défis?
Oui, j'ai des défis à relever
pendant la journée. Et parfois, tu as les défis du lendemain même qui s'imposent à la journée, au nouveau jour, n'est-ce pas?
Effectivement.
Voilà. Et dans ces défis, tu dois pouvoir à l'entretien de ta maison, n'est-ce pas?
Oui.
Est-ce que tous les jours, tu es à la hauteur?
Non, non. C'est tellement difficile.
Ok. Maintenant, est-ce que tu as le temps alors que les enfants viennent autour de toi pour prendre leur beignet du matin, tu as le temps de t'attrister sur toi?
Pas forcément, mais dans le moral n'est pas souvent très...
Quand tu agis là avec les enfants, est-ce que tu les montres ça?
Non, 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 je ne peux pas.
Comment tu te montres?
Non, je montre toujours gay.
Parce que ça doit affecter leur foi, n'est-ce pas? Leur conscience.
Effectivement.
C'est très important. Or, cette attitude-là est très importante parce que ça te permet d'engager la prochaine journée. Sinon, tu vas laisser ta moto dedans. Tu vas te coucher un jour, deux jours, une semaine, un mois et c'est foutu. Alors, quand je parle des tempêtes ce matin, je ne parle pas de... Je parle d'un challenge dans ton âme que tu dois surmonter chaque jour. Alors que tu as un souci plein dans ton âme, tu dois te lever et avancer. Et te donner toi-même les éléments pour progresser. Regardez. Josué vient d'avoir une des plus grosses tempêtes de sa vie. Il a perdu son leader, son père, son mentor, son tout. Cet homme-là, tout enseigné, il n'est plus là. Amen. Il n'a même pas le privilège de voir comment on l'enterre. Vous savez ce que c'est difficile? Il n'a même pas le privilège d'être même là le jour de l'enterrement. Il traîne sa douleur sur des joues. Et le peuple est là, attend qu'il se lève. Mais il traîne sa douleur. Au chapitre 1 du livre de Josué, la Bible dit Dieu visite Josué. Et qu'est-ce qu'il lui dit?
Fortifie-toi et prends courage.
Qu'est-ce qu'il lui dit?
Fortifie-toi et prends courage.
Alléluia. Il dit fortifie. En d'autres termes, frère, tu n'as pas le temps de t'émouvoir pour ça. Tu dois avancer. Parce que des gens dépendent de toi. Parce que des gens font quoi? Samuel a traversé des tempêtes. Et une de ses plus grandes tempêtes, c'était liée à sa relation avec Saoul. Il aimait Saoul comme son propre fils. Il avait entraîné, il avait bâti. Dieu l'avait utilisé de faire de lui un roi. Il avait même donné sa meilleure portion de repas, l'épaule. Ça, n'est-ce pas? Et Dieu dit un matin, à cause de la désobéissance de Saül, Dieu utilise Samuel pour dire c'est fini. Mais Samuel pleure sur des semaines, sur des mois devant Dieu. 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 1. Pleure. Et Dieu le visite. Dieu lui dit, je suis fatigué de tes pleurs. Dieu n'a pas dit Asia. Amen. Pour vous dire que quand Dieu utilise un homme, il n'a pas le temps de le laisser s'émouvoir sur ses douleurs. Tu dois avancer. Parce que si tu t'arrêtes, ce n'est pas toi seul que tu arrêtes. Tu arrêtes toute une barque. Alors tu dois apprendre la déclaration et les paroles que Dieu a données à Josué. Fortifie-toi. Toi-même, tu dois te lever le matin. Tu vas dire, papa, matin, tu vas t'en sortir. Tu dois être ton propre coach. Besson, tu es mort. Donc, tu dois être ton propre coach pour te coacher. Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Dieu n'a pas dit, je vais te fortifier. Dieu a dit, je vais te fortifier. Non. Fortifie-toi. En d'autres termes, il y a une force en toi. Il y a une force en toi qui se manifeste dans ta faiblesse. Ah non, quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Qui se manifeste au moment où tu dis, je n'y peux plus rien. La preuve. Tu dis que tu es fatigué dans ton âme, mais tu te lèves le matin, tu continues à avancer, non? Tu t'es couché? Tu t'es couché?
Non, oui, monsieur.
Tu es rentré au village?
Non, non.
Alléluia. Il y a une force en toi et Dieu croit en cette force parce que c'est lui qui l'a investi en toi. Il dit, tu n'as pas besoin d'aller à X ou à Y endroit. Crois en ce qui est en toi. Et ce qui est en toi, Paul dit que l'onction que vous avez reçue vous enseignera. Tu as reçu quelque chose. Et cette chose-là doit t'enseigner. Et cette présence-là en toi te dit, papa, matin, demain sera meilleur. Peut-être aujourd'hui, ça n'a pas été comme tu espérais, mais demain sera meilleur. Prends courage et fortifie-toi. Alléluia. À ce moment, tu te lèves et tu souris à la vie. À ce moment, tu fais comment? Tu souris à la vie. Rappelez-vous, Jésus a dit, ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le haut. Le sourire que tu veux qu'on te donne, donne-le aux autres. Si tu donnes la tristesse, les gens vont te renvoyer la tristesse. Amen. Alors, si moi je te dis, le temps de ta douleur est passé. Comment vas-tu croire que cette parole est réelle? Comment vas-tu croire? Vas-tu croire au moment où tu vas sortir ici et qu'on va te donner un camion avec beaucoup d'argent dedans? Alléluia! Est-ce que vous voyez? Vas-tu croire au moment où tu vas sortir là dehors et tu vas avoir 10 coups de fil de contact fort, puissant? Va dire, tu vas commencer ton Alléluia d'ici jusqu'à Bifaka. Alléluia. quel moment vas-tu croire? À quel moment vas-tu croire? C'est pourquoi dans la tempête, un des problèmes des disciples était leur foi. Était leur foi. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas la foi, mais vers où l'avaient-ils orienté? Vers où orientes-tu ta foi? L'orientes-tu vers la tempête ou sur Jésus? Non, c'est facile de dire sur Jésus. Alléluia. Mais tu es là dans la tempête, tu as oublié Jésus depuis. Tu as oublié Jésus. Tu as oublié sa parole. Tu as oublié ses promesses. Tu as tout oublié. Alléluia. Et tout ce qui vient dans ton esprit, c'est ah, Dieu, depuis qu'il parle ça, c'est quoi? Ah. En tout cas, on peut aussi à l'église, ça va. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce que je vous enseigne, c'est ce que j'expérimente. C'est ce que je dois expérimenter. C'est ce que j'applique au quotidien dans ma propre vie. Parce que si tout ce que j'espérais devant Dieu se réalisait, il ne serait pas à côté de vous. Jamais. Je serais parti. Loin de vous. On se serait tamponné, pap, chacun. Ouh. Ni vu, ni connu. Mais Dieu utilise certaines tempêtes pour dire, reste là. Et laisse-moi me glorifier dans ta vie. En mon temps, en mon heure, à ma manière, avec mes instruments. Alléluia. Amen. Toi, ça chauffe. Je vais la sortir. Ça chauffe trop. Ah, c'est trop dur. Jusqu'à quand? C'est toi le cuisinier qui a chronométré le temps dans le four? L'argile s'adresse-t-il au potier en lui disant? Hein? Non. Est-ce qu'il s'adresse au potier pour dire tu ne connais pas ton travail? Hein? Tu ne connais pas ton travail. Comment tu me laisses me briser? L'argile se brise. Le potier reprend ce qui est brisé. Il refait une nouvelle vase avec ce qui est brisé. Et le Seigneur dit à Jérémie, moi l'Éternel ne ferai pas la même chose pour vous. Mais vous ne voulez pas être brisé. Quand ça brise, vous criez jusqu'à... Vous accusez le pasteur. Vous accusez les prophéties du pasteur. Ah, tu as dit des choses. Par la foi, nous prophétisons. Par la foi, nous prophétisons. Nous parlons de la part du Seigneur. Alléluia. Alors, si tu viens devant moi et que tu viens avec tes batailles, est-ce que je dois te raconter mes tempêtes? Si je te raconte mes tempêtes, qu'est-ce qui va se passer?
Je vais encore me couler plus.
Alors, est-ce que moi aussi j'ai les tempêtes?
Oui.
Est-ce que les pasteurs que vous voyez partout dans le monde, là, puissant, ils ont les tempêtes?
Non, ils ont les tempêtes. Jusqu'à.
Si Jésus a eu les tempêtes, personne n'est exempté. Personne. Alors, quand un homme de Dieu vient, il se tient ici, il dit, ma soeur, aie la foi. Il te parle de tous ses tripes. Alléluia. Il n'est pas en train de faire un slogan, de te présenter un nouveau produit qui ne marche pas. Ça a fait ses preuves. Lui-même est accroché dessus. Lui-même est à accroché dessus. Alors, quand tu viens dans la maison de Dieu, David dit, je suis dans la... Je suis dans la joie. Un des amplificateurs de la foi, c'est la joie. Un des amplificateurs de la foi, c'est la joie. L'état de ton cœur. Si tous les jours, ton cœur est triste et que ton visage reflète cette tristesse, ça va pas aller. Tout le monde a des tempêtes. Alors, Jacques dit que ce temps de difficulté que nous passons, Dieu a aussi mis en cela une solution. Il y a une solution. Paul dit, c'est Paul qui le dit. Il y a aussi une solution pour sortir de là. Alors, sois patient. Sois patient. Sois patient. Dieu choisit d'accomplir le désir, la prière de papa Martin en une semaine. Dieu choisit de répondre pour lui en 2 mois. Dieu choisit de répondre pour tel en 6 ans. Dieu choisit de répondre pour l'autre pour 10 ans. Tu fais comment? Maintenant, tu regardes pour celui de une semaine, tu dis pourquoi? Dieu n'est pas un chinois pour faire les miracles en série. Il fabrique le même téléviseur, même coupe. Ce que Dieu fait ici, c'est en fonction de ce qu'il a à atteindre. Ce que Dieu fait ici, c'est en fonction de ce qu'il veut atteindre comme objectif. Ce que Dieu fait ici, c'est en fonction des objectifs qu'il veut atteindre dans sa vie. Ce que Dieu fait ici, c'est en fonction des objectifs qu'il veut atteindre. Alors ne vous regardez pas. Et la deuxième chose qui fait que beaucoup de personnes ont une foi compliquée, c'est parce qu'ils se comparent aux autres. Oh, tu as fait ça, et moi alors? Je suis là. Écoutez, Dieu a plus intérêt que ta vie change que toi-même. Comment saura-t-il qu'il est Dieu si dans ta vie les choses ne se montrent pas? Dieu est invisible. Dieu se démontre par nos vies. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu se démontre par ta vie. Alors, qui a plus intérêt que ta vie change? Dieu! Alors, comment on saura qu'il est Dieu dans ta famille? Comment on saura qu'il est Dieu dans ton foyer? Comment on saura qu'il est Dieu au milieu de tes enfants? Si ta vie n'est pas transformée. Alléluia. Alors, comme un bon coach, il pose chaque chose de manière à ce que ce soit durable. De manière à ce que ça ne s'arrête pas seulement à toi, mais les enfants qui vont venir puissent en profiter. Les enfants qui vont venir après ceux qui vont venir puissent en profiter. Les enfants qui vont venir avec ceux qui vont venir puissent également en profiter. Mais toi, tu regardes les choses en fonction de toi. Dieu regarde la chose en fonction de ta postérité. Il a béni Abraham pour sa postérité. Pour sa postérité, pas pour Abraham. Pas pour Abraham. Dieu te bénit pas par rapport à toi. Par rapport à tes enfants. Par rapport à tes petits-enfants. Par rapport à tes arrière-petits-enfants. Si le bonheur que tu espères là, ça se manifeste avec toi, ça se règle avec toi, et tes enfants vivent la pauvreté, tu vas être fier. Non, nous tous ici, on vient des concessions au village où on nous a dit que nos parents étaient riches, non? Nos grands-parents étaient riches, regardez-nous aujourd'hui. Regardez-vous aussi aujourd'hui. Quand vous allez au village, on dit que ton arrière-grand-père, il avait l'argent, il était riche, il avait les moutons, les vaches jusque là-bas au fond. Aujourd'hui, tu arrives, tu ne vois même pas la poule. Parce que c'est fini avec lui. Vous avez hérité la pauvreté. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Quand il bénit, c'est pour plusieurs générations. Aujourd'hui, nous expérimentons la bénédiction d'Abraham. Nous la vivons. Alléluia. Nous avons hérité de cette bénédiction, c'est pas ça? Et comme Abraham, nous marchons la même trajectoire que lui. Abraham a reçu l'héritage par quoi? La foi. Toi, tu vas recevoir l'héritage par quoi? Tes œuvres?
Ah, la foi.
Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer? Vous voyez, votre état d'esprit a fait, mon message a changé autrement. Mon message a changé. Hein? Oui, c'est bénéfique, mais mon message, c'était pas dans ce sens, mais à cause de votre état d'esprit, ça a changé. Alléluia, tant mieux pour nous. Alléluia, tant mieux pour nous. Ça ne me dérange pas. Au contraire. Si je sois avec les vivants plutôt qu'avec les fantômes, je suis heureux. Alléluia. Si à la fin du culte, il sort de l'église avec les vivants et non les fantômes, je suis heureux. Alléluia. Je suis heureux, j'ai accompli ma mission. Amen. 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 Et c'est ça qui montre aussi que l'Esprit de Dieu travaille de. Quand tu prêches, tu dois être flexible à l'Esprit de Dieu. Tu ne dois pas être flexible à ton message. C'est son message. C'est plus son message que mon message. Et son message, c'est que nous devons faire attention aux tempêtes. Maintenant, notre état d'esprit est primordial pour les tempêtes. Et c'est pourquoi il dit la deuxième clé pour résister aux tempêtes, c'est quoi? La vision. Et la vision est liée à notre état. Et notre état d'esprit est lié à notre cœur. Et c'est là où l'Esprit de Dieu a insisté tout à l'heure pour nous aider à sortir de cet état-là. Alléluia. Amen. Alors que Daniel était dans la fosse, est-ce que ça a changé sa vision de Dieu? Quand il était dans la fournaise, Adam, est-ce que ça a changé sa vision de Dieu? N'a-t-il pas continué à glorifier le même Dieu? Pourquoi nous, on est dans la fosse au lion, on renie Dieu? On sombre dans le désespoir. Mais regardez, dans la fosse au lion, il a dormi. C'est pas ça? C'est au petit matin, le roi est venu le chercher. Mais qui n'a pas dormi entre lui et le roi? Est-ce que le roi avait les lions autour de lui? Est-ce que le roi s'était couché à terre? Il était couché sur un bon lit, bon matelas, climatiseur, des gens pour le ventiler, avec ses jolies femmes autour de lui. La Bible dit, cette nuit-là, il ne fit venir aucune de ses femmes. Dieu a dit, je vais te rendre mal à l'aise. Et l'autre va être à l'aise. Le gars dormait. Au petit jour, il était le premier à rêver même les sentinelles. Pour dire, oh, Daniel, serviteur du Dieu très haut, ton Dieu que tu sais fidèlement, t'a-t-il délivré? Daniel répond, oh roi, vis éternellement. Mon roi que je sais, mon Dieu que je sais, a fermé la bouche des lions. Ha! C'est quoi ta vision des tempêtes est très importante. La manière que tu vois les batailles au devant de ta vie. Alors, si tu viens, tu me demandes, ah, apôtre, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me donnes un peu d'argent, 10 000. Je ne l'ai pas. Je te dis, ah, pas, tu reviens, je suis un peu trop riche en ce moment. Alléluia. J'attends un dépôt venant du ciel. Alléluia. Qui va transiter par ma banque personnelle, mon compte, et puis ça va arriver, je vais te donner. Mais si c'est toi, tu vas dire, ah, je suis foiré. Regardez, tu as nullifié la foi de Dieu. Comment ça va? Ah, c'est mal le foie. Ah, Sylvie. Quand il vient, il dit, comment ça va?
Ça va.
Non, maintenant tu as changé. Amen. Tu viens dire comment ça va, tu vas dire, ah, seulement les situations. C'est pas ça, hein? Seulement les situations. Mais si tu viens, tu me dis, apôtre, comment tu vas? Il va te dire, Ça ne va pas encore comme je veux, mais ça va comme Dieu veut. Gloire à son nom. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça change ma vision. Plus je confesse la vision de Dieu, plus je vois la vision de Dieu. Plus je confesse la vision de Dieu, plus je vois comme Dieu. Moins je confesse la vision de Dieu, plus je vois comme je vois. Et comme je vois, c'est rien du tout. C'est les situations. Ce n'est pas un credo, c'est une confession de foi. C'est une confession de foi, de foi, de foi. Et ça accroît ma vision. Alors, tu vas venir me dire, non, je vais te dire, laisse. Mon Dieu est vivant. C'est pourquoi la femme de Job pouvait lui dire, maudit Dieu, il dit jamais. Parce qu'il confessait la pensée de Dieu. Il confessait la volonté de Dieu. Il confessait la vision de Dieu et il voyait comme Dieu. Qu'est-ce que tu confesses? Alors, ce que tu confesses amplifie ce que tu vois. Ce que tu confesses amplifie ce que tu vois. Je vois les problèmes, je vois les problèmes, mais tu vas voir les... Je confesse les problèmes, mais tu vas voir les problèmes. Je confesse les difficultés, mais tu vas voir les difficultés. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, j'aurais déjà conclu mon service, mais votre âme est tellement dans la fosse que je dois la sortir absolument. Je dois la sortir. Alléluia. 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 Ma fille Diane, comment s'appelle ton premier fils, son prénom?
Mon premier
fils.
Samuel.
Non. Ton premier fils.
Sorti de mon ventre.
Ton premier fils.
Samuel Gabriel.
Ton premier fils. Abel. Ton premier fils. C'est pourquoi tous ces erreurs, tu dois pardonner. Amen.
Amen.
À quoi tous ces erreurs et ces manquements, tu vas pardonner. Et tu dois arrêter de bavarder dessus. Quand Samuel fait popo, tu fais comment? Tu ne vas pas te plaindre chez la voisine.
Non.
Tu arrêtes un passant, tu te plains.
Non.
Tu ne vas pas crier à la porte.
Non.
Tu nettoies seulement silencieusement. Non?
Oui.
Et puis tu le mets de nouveau linge et tu dis attention. Mais tu sais que quand tu dis attention, c'est pour le préparer à une nouvelle, un nouveau popo dans 5 minutes. Parce que quand tu vas lui donner à manger, il va bien manger et puis sans se rendre compte, poup, c'est parti. Fais attention à ce que je te dis. Je ne vais pas aller plus en détail, mais je crois que tu comprends ce que je suis en train de dire. Parce que c'est comme ça. Alléluia.
Amen.
Ta vision. Quelle est ta vision? Troisième clé. Troisième clé pour résister à la tempête. Avoir la bonne information. Alléluia. Avoir la bonne information. La bonne information. Le fait d'être grammaticalement correct, bien-aimé, ne signifie pas que l'on est financièrement correct. Alléluia. Et l'arrivée d'une information forme un homme. Quand vous voyez le mot information, divisez-le en deux. Par exemple, vous allez voir qu'il y a le mot in, il y a formation. In, ou bien en anglais in, ça veut dire à l'intérieur. Amen. À l'intérieur de la formation. Alors, de l'intérieur de la formation. C'est quand tu es dans la formation, c'est quand tu es dans la tempête que tu apprends quelque chose. Hors de la tempête, tu ne peux rien apprendre. Hors de la difficulté, tu ne peux pas comprendre la vie. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alors, une mauvaise information ou une information négative déforme un homme. Si vous n'êtes pas déterminé, vous ne serez pas puissant. Lorsque vous connaissez votre autorité et ce que vous portez, vous parlez avec audace. Amen. Et l'information, c'est laquelle? L'information concerne qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, tu auras du mal à confronter ce qui est en face de toi. Alléluia. Qui es-tu? Qui es-tu? Je suis enfant de Dieu. Je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Par Jésus, je suis plus que vainqueur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que tu comprends? C'est ton identité. Je suis soldat de Christ. Tu es un soldat. Et la victoire dans une guerre est liée à la qualité de ton information. Quelle information as-tu? Beaucoup de tempêtes perdues dans nos vies, soit par une mauvaise information, soit par un manque d'information. Alléluia. Alors, quand tu as une mauvaise information, tu échoues. Quand tu n'as pas d'information, tu échoues encore. Alors, ma prière pour toi ce matin, c'est que tu aies la bonne information. Regardez Pierre. Il a d'abord donné une mauvaise information. Quelqu'un a dit c'est un fantôme. Mauvaise information. Et sur la base de cette information, tout le monde a pris peur. Alléluia. Parfois, tu as une mauvaise information, ça accroît un certain comportement et une attitude dans ta vie. Alléluia. Et tu avances avec cette mauvaise information, cette fausse information de la vie. Jusqu'à ce que Jésus donne la bonne information, c'est moi. Alors, quand il dit c'est moi, Pierre dit, si c'est toi, je vérifie l'info. Si l'info est correcte, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi. Et Jésus dit, viens. Alors, il marche sur la base de la bonne information qu'il a reçue. Vous voyez, ça a formé sa foi. Maintenant, quelle est l'information que tu reçois? L'information, c'est que rien de bon ne peut se passer dans votre vie et dans votre famille. Avant toi, qui a voyagé? Avant toi, qui s'est marié? Regarde le mariage des autres. Tout le monde s'est séparé. Il y a divorce. Toi, tu es qui pour pouvoir t'en sortir? Regarde les informations. Mais la bonne information est laquelle? Oui, ceci est vrai. Ceci est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Voici la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de mariage. La réalité, c'est que les gens se séparent. La réalité, c'est que les gens vivent dans les tribulations, la maladie, les blocages. Alléluia. Mais la vérité, c'est que par Jésus, j'ai droit de vivre un foyer stable. Par Jésus, par l'alliance de son sang, j'ai le droit d'être heureux ou heureuse dans ma vie. Amen. Alors, tu dois prendre le choix, tu dois faire le choix de prendre la bonne information. Et c'est souvent ça qui nous fait échouer dans les tempêtes. Parce qu'on a la mauvaise information. Tel m'avait dit que. Et tel, sur la base de ce que tel t'avait dit, tu fonctionnes. Et tu échoues. Alléluia. Dernière clé pour résister aux tempêtes. Dernière clé. On prend la dernière clé, on conclut. Est-ce que tu es béni? Dernière clé. L'accord avec le maître. L'accord avec le maître. Alléluia. L'accord avec le maître. Bien-aimé, lorsque tu traverses les tempêtes, ne marche pas pour toi, marche par l'instruction du Seigneur. Quand je parle d'accord, je parle de l'instruction. L'instruction est bénéfique pour le salut des tempêtes, pour le salut, pour la sortie des tempêtes. Regardez Pierre. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus dit, viens. Et or, Pierre marche sur l'eau avec la corde du Seigneur. Alléluia. Autrement dit, sa foi est focalisée sur le Seigneur. Et non sur ses capacités. Et non sur ses possibilités. Parce que quand ta foi n'est pas basée sur le Seigneur, tu as une question qui vient. Est-ce que c'est possible que les choses s'y marchent même? Est-ce que c'est possible que mon commerce y marche? Alors que je connais toutes ces difficultés. Est-ce que c'est possible que moi j'enfante? Alors que dans ma famille, on n'enfante pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que c'est possible? Mais quand ta foi est sur le Seigneur, tu manifestes l'impossible. Amen. Tu marches sur l'eau. Tu marches sur l'eau. C'est la raison pour laquelle triompher des tempêtes va passer aussi par ton accord à l'instruction du maître. Ne fais pas ce que tu veux, fais ce qu'il veut. Ne fais pas comme tu veux, fais comme il veut. Et c'est souvent là le problème que nous avons. Nous voulons faire les choses à notre manière, à notre temps. Et on veut que Dieu s'aligne à nous. Notez que Pierre n'est pas entré dans l'eau et marché. Il a attendu que Jésus dit « Viens ». Si Jésus ne dit pas « Viens », si Jésus ne dit pas « Lève-toi », ne te lève pas. Si Jésus ne dit pas « Couche-toi », ne te couche pas. Quelle instruction as-tu reçue? Quelle instruction as-tu reçue? Demande à ton voisin, quelle instruction as-tu reçue? Quelle instruction as-tu reçue? Alléluia! Vous remarquez que c'est le maître Jésus qui a permis à Pierre de venir à lui sur la mer agitée. Ne marchez jamais dans les tempêtes de la vie sans que le Seigneur ne vous y autorise et ne vous soutienne. Alléluia! Et ne vous soutienne. Voyez, vous risquez de sombrer définitivement. Au moment où il a perdu, il a déconnecté sa foi sur le Seigneur. Il a sombré. Il a sombré. Beaucoup de gens aujourd'hui sont détruits par les tempêtes de la vie parce qu'ils ne demandent pas la permission et le soutien du Seigneur. Bien-aimé, est-ce qu'à partir de cette année, tout ce que tu vas faire, tu dois demander l'autorisation du Seigneur? Est-ce que tu dois demander, est-ce que tu vas à partir d'aujourd'hui demander l'instruction du Seigneur? Voyez, beaucoup d'entre nous demandons les instructions au Seigneur quand c'est chaud. Quand on est à l'aise là, on ne demande plus rien. Comme Saül. Quand Saül était jeune, quand Saül n'était pas encore roi, tout ce que Samuel lui demandait de faire, il obéissait à la lettre. Quand il est devenu roi, un jour Samuel lui a dit, va tuer, je vais éprouver ton obéissance. Je vais éprouver ton obéissance. Dieu éprouve notre obéissance. En nous donnant des petites tâches hein, qui semblent rien du tout. Mais c'est là-bas où il nous note. Il dit, va, tue toute cette tribu, tue les moutons, tue le roi. Lui part. Il laisse le roi vivant, il laisse les moutons vivants, les vaches vivantes, et il tue tout le reste. Et quand Samuel vient, Samuel dit, ah, as-tu obéi à toutes les instructions du Seigneur? Il dit, ah, Samuel, c'est tout, c'est correct. Il dit, ok. Il dit, mais j'entends le prix du bêlement de mouton. Il dit, non, j'ai gardé ça pour l'offrande au Seigneur. Et le prophète dit, l'obéissant vaut mieux que le... En d'autres termes, qu'est-ce que le Seigneur a dit? T'as dit de laisser un mouton? T'as-t-il dit de laisser un mouton? Il dit, et le roi là, il est vivant, pourquoi? Il dit, non, je l'ai laissé pour le garder en soumission. Non. Tu gardais ton ennemi. Et Samuel a pris le couteau, il a tué ce roi. Première fois. Deuxième fois, Samuel lui a dit, écoute, va en guerre, dans 3 jours je te rendrai visite. Il va en guerre, 3 jours, 1 jour, 2 jours, 3 jours, Samuel n'arrive pas. Il dit, bon, il faut qu'on parte en guerre, le peuple s'impatiente. Alors pour satisfaire le peuple, Il part lui-même offrir le sacrifice. Et un des sacrificateurs lui dit, Samuel, Saül, ce n'est pas ta fonction. Il dit, je suis roi. Un roi, je suis autorisé à faire ce que je veux. Bien-aimé, quel que soit ton statut dans la vie, il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire. Et ce qui est lié à la fonction de Dieu, tu ne peux pas faire. Alléluia. Et c'est comme ça que l'affaire est quittée. Et Samuel va lui dire une prophétie intéressante. Samuel va lui dire que quand tu n'étais qu'un enfant, voici ce que Dieu dit. Quand tu n'étais qu'un enfant, je t'ai porté. Maintenant que tu sais marcher, tu t'en fous de moi. Tu t'en fous de moi. C'est pourquoi je dis toujours que faites attention. Ne croyez pas à l'humilité du pauvre. C'est sur cette base-là de Saül que j'ai compris cette histoire. Ne croyez pas. Quand il est faible, il accepte tout ce que tu dis. Mais quand il devient fort, il critique tout ce que tu dis. Tu viens à moi. Le premier jour que tu arrives, tu es fatigué, tu es brisé. Je te donne une parole du Seigneur. Tu dis, hey, papa, ça c'est le Seigneur. Dès que tu sors du coma, quand il dit que Dieu, tu dis non, papa, écoute, tu sais que Dieu, tu sais, moi-même j'ai reçu du Seigneur que je comprends que tu es là bien, non? Sache que tu vas dans le chemin de Saül. Je vais prêcher sur l'esprit de Saül. Vous allez comprendre encore. Ce n'est pas le message de ce matin. Amen. Je reviendrai dessus. Et vous comprendrez que vous devez vous méfier même de vous-même. Vous devez vous méfier de vous-même dans le processus de l'obéissance à la voix de Dieu. Vous devez vous méfier de vos choix, de vos envies, de ce que vous appelez directive. Amen. Celui qui t'a béni hier, le lendemain tu critiques. C'est pas bon. C'est dangereux pour toi. Amen. Amen. Hier tu disais je parle de la part du Seigneur. Aujourd'hui tu dis que non, je suis influencé par X ou bien par Y. Chose de la vie. Mais hier, c'est les mêmes événements qui étaient autour de moi. Mais tu as reconnu Dieu. Et c'est ce que Samuel dit à Saül. Il t'a dit de faire ça. Hier, tu n'étais rien. Je t'ai dit, tu as fait. Aujourd'hui, tu es roi. J'ai dit, tu critiques. Tu trouves que tu dois ajouter, tu dois un peu arranger ce que je fais. Non. Alléluia. 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 Marchons avec l'accord de l'instruction. Marchons avec l'accord de l'instruction. Ne sois pas, quel que soit le niveau d'élévation où Dieu va t'amener, cherche toujours l'instruction. Amen. Retourne toujours vers la source de ton instruction et bâtis-toi et récupère. Même si l'instruction est folle, fais. Ça va sauver ta vie. Demain, tu comprendras pourquoi c'était aussi fou. Amen. Non, Dieu ne peut pas parler comme ça. Dieu, non, il peut parler. Dieu peut te dire, va sauter le mur là, tu tombes de l'autre côté, ça va. Hein? Le petit mur, si tu dis, ah, quel petit mur, c'est un petit mur. Il veut passer par la porte une fois sorti dehors. Tu as échoué, hein? Dieu a dit, saute. C'est un mètre, saute. Mais toi, tu dis, non, mais il y a une porte ici. Dès l'instant que tu dis, il y a une porte ici, que papa José a mis une porte ici et une porte ici. Je n'ai qu'à prendre la plus proche et puis je sors, ça va, ça résout le problème. Tu as échoué. Ce n'est pas l'instruction. Amen.